gratuit.
Voici les titres du journal.
Le bar Le Constellation à Crans-Montana, qui a causé la mort de 40 personnes et fait 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre, n'avait pas été contrôlé depuis 2019, a-t-on appris ce matin. En outre, la commune de Crans-Montana a pris des mesures, notamment un contrôle de tous les établissements dès à présent et l'interdiction d'engins pyrotechniques dans les lieux clos. Ce drame continue de bouleverser à monter. Le chef du service de la sécurité évoque l'impact psychologique de cette catastrophe sur les sapeurs-pompiers. Et dans les autres titres de l'actualité. Voilà 200 ans que le métier de guide de montagne mène les aventuriers au sommet des Alpes. Pour marquer ce bicentenaire de l'histoire alpine, un court documentaire retrace cette passion des cimes. En sport, Thibaut de Seine connaît un début d'hiver canon. En ski, peut-être de quoi participer aux prochains Jeux Olympiques.
Et pour la météo, un temps assez ensoleillé cet après-midi avec des passages nuageux pouvant se montrer parfois étendus. Et pour demain, du soleil le matin avant une augmentation de la couverture nuageuse dans l'après-midi. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Le bar Le Constellation, ravagé par les flammes à Crans-Montana et qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre, n'avait plus été contrôlé depuis 2019. Le conseil communal de la station de ski dit le regretter amèrement, évoquant un manquement au contrôle périodique sur la période 2020-2025, a déclaré Nicolas Ferraud, le président de la commune, ce matin lors d'une conférence de presse. Dans ces circonstances, le conseil communal a décidé de prendre des mesures immédiates. Il prononce l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toutes sortes dans les lieux fermés sur l'ensemble du territoire communal, a-t-il indiqué aujourd'hui. Il a aussi décidé de mandater un bureau extérieur spécialisé pour réaliser sans délai un contrôle de tous les établissements publics de la commune, y compris de la qualité des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoit pas, car sinon le contrôle n'atteindrait pas son but, celui de renforcer la sécurité, écrit également la commune de Crans-Montana dans un communiqué. Notez qu'après l'incendie, de nombreux créneaux pour donner du sang emballé dans le canton de Vaud sont complet. Les victimes ont besoin de dons de sang pour stabiliser leur circulation ou assurer le transport de l'oxygène. Vous dire encore que 83 personnes étaient encore hospitalisées hier. Réunis en séance extraordinaire à la suite de ce drame, le Conseil d'État valaisan a décidé de plusieurs mesures destinées à soutenir les victimes, les familles et les équipes d'intervention et à prévenir qu'une telle tragédie ne se reproduise. Il a également annoncé que la cérémonie en hommage aux victimes prévue vendredi aurait finalement lieu à Martigny. Cette cérémonie d'hommage devait se tenir normalement à Crans-Montana, mais elle aura bel et bien lieu à Martigny. La partie officielle débutera à 13h45 au centre d'exposition et de réunion de Martigny, le CERM. Ce changement de site est dû aux chutes de neige attendues et à la sécurité. Une retransmission sera organisée toutefois pour la population de Crans-Montana aux régions. À 14h, toutes les cloches des églises suisses sonneront durant 5 minutes et un moment de silence sera observé. Parmi les personnalités politiques annoncées pour la cérémonie officielle, le président de la Confédération Guy Parmelin participera avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes. Le président français Emmanuel Macron sera également de la partie, accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Le président italien Sergio Mattarella sera lui aussi probablement en Valais.
5 jours après le drame, l'émotion et le choc restent immenses.
Au-delà des familles et des proches lourdement impactés, cette catastrophe a aussi profondément marqué celles et ceux qui ont tenté de sauver des vies. Les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les forces de l'ordre, confrontés à des scènes traumatisantes, ces services de secours sont souvent composés de miliciens. À Crans-Montana, plusieurs membres des équipes de secours ont signifié qu'il serait difficile de pouvoir continuer après une telle intervention. Des conséquences qui pourraient aussi toucher d'autres équipes de secours, comme par exemple à Monté. Nous avons posé la question au chef de la sécurité de la ville, Glenn Martinier.
Bien entendu, il y a un risque. Oui, c'est des sapeurs-pompiers volontaires. On ne peut jamais les préparer à des situations comme nos camarades l'ont vécu à Crans-Montana. On fait tout pour les informer de ces situations-là, que ça pourrait arriver. Mais c'est clair qu'il y a un certain impact. Et puis, de nouveau, ils se projettent dans des situations comme ça, puis certains, on sait que ça va sûrement remettre en doute leur engagement de volontariat dans nos rangs.
S'ils n'ont pas directement été confrontés à ce drame, les secours montésans ont toutefois ressenti l'impact et l'émotion d'une telle catastrophe. Glenn Martini avait une pensée pour ses collègues du haut plateau.
Une totale pensée avec les familles et amis des gens touchés. Une totale pensée avec mes camarades de Crans-Montana, Sierre et toute la région qui sont touchés, où j'essaye de leur apporter un soutien en les appelant. Ils ont fait un boulot incroyable et puis ça, il faut le rappeler. Donc, mon sentiment est là, c'est en tout cas de leur faire remarquer qu'ils ont fait un super job. C'est très important. Puis de notre côté, c'est clair qu'on dit le risque zéro n'arrive pas. On doit le prévenir au maximum. Mais voilà, on peut malheureusement pas tout gérer. On essaie de penser à tout, d'être le plus efficace possible avec les moyens qu'on nous met à disposition. Et notre métier est de se battre pour qu'on ait ces moyens, les effectifs, les budgets et tout ce qui va avec pour pouvoir être le plus performant possible.
Et notez que vendredi sera une journée de deuil national, un sujet signé Ludovic Turin.
L'année 2026 marque le bicentenaire du métier de guide de montagne en Suisse.
Pour marquer ce jubilé, l'ASGM, l'association fêtière, rend hommage à ses amoureux des cimes dans un court documentaire YouTube. Pour rappel, il y a 200 ans, les premiers montagnards suisses endossaient le rôle de guide et réalisèrent les premières ascensions vertigineuses aux côtés de riches touristes britanniques. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 1500 guides qui transmettent leurs connaissances en alpinisme, ski de randonnée ou escalade à des clients internationaux. En domptant en permanence les dangers et les beautés du monde alpin, la figure du guide continue de fasciner par son sang-froid. Pierre Maté, secrétaire général de l'ASGM.
C'est le plus beau métier, mais c'est surtout le plus beau bureau du monde. Imaginez que votre bureau soit celui de la nature, de la montagne, en été, en hiver. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a aussi l'habitude de dire que les guides de montagne sont bien sûr des passeurs de savoir, mais avant tout des fabricants de souvenirs. Une personne qui a passé une journée en montagne avec un guide s'en rappelle toute sa vie. Voilà, c'est un peu ces souvenirs indélébiles gravés dans le cœur qui font la valeur, la notoriété, et puis un peu ce côté mythique du guide de montagne, même si à la fin, nous sommes des humains et nous pratiquons la montagne au plus proche de notre savoir et de notre conscience, avec quand même les risques et donc la possibilité aussi de faire des erreurs ou d'avoir des accidents, même si c'est très rare.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo, le documentaire de l'Association Suisse des Guides de Montagne met en lumière une dizaine de professionnels de toute la Suisse, dont Lev Yonard, Jackie Pochon, 78 ans, le plus ancien guide valaisan encore en activité, y partage sa passion de la montagne qui dure depuis plus de 54 ans.
Relations avec l'Union Européenne, coupes budgétaires, immigration.
Des décisions politiques majeures seront prises cette année au niveau fédéral. Tour d'horizon avec notre correspondante à Berne, Marie Vieux-Mier.
Le premier moment politique fort de l'année, ce sera le forum économique de Davos fin janvier. Donald Trump a annoncé son intention d'y participer, ce qui permettrait au Conseil fédéral d'avancer dans ses négociations sur les droits de douane et peut-être même de discuter des F-35. Le gouvernement va devoir décider combien d'avions de combat acheter pour respecter la volonté populaire. Le Parlement fédéral lui siège pour la première fois en mars. Il devra notamment se prononcer sur les coupes budgétaires et sur les nouveaux accords bilatéraux avec l'Union européenne. Mais ce qui marquera 2026, ce sera le nombre élevé de votations populaires, surtout sur des initiatives. On commence fort le 8 mars avec 4 objets, fonds climat, argent liquide, imposition individuelle et redevances radio-TV. L'initiative Pas de Suisse à 10 millions pourrait être soumise au peuple en juin, l'initiative sur l'alimentation en septembre et des référendums sont aussi en cours sur le service civil et sur l'exportation de matériel de guerre, de quoi remplir largement les 4 dimanches de votation prévus en 2026.
De Berne, Marie Vieux-Mier. La sélection suisse de ski alpinisme pour les prochains Jeux Olympiques tombera jeudi. Si l'athlète de la Tour de Paix, Caroline Ulrich, devrait obtenir son ticket, Thibe de Seine reste, elle, dans l'expectative. Autrice d'un excellent début d'hiver, avec notamment 2 victoires au championnat de Suisse, la Lesnoute de 22 ans s'attend toutefois à être convoquée comme première remplaçante, Thibe de Seine.
À mon avis, c'est déjà chez les filles, en tout cas, ce sera assez clair. Après, ça va déterminer surtout qui sera sur place en tant que remplaçante, qui sera important pour moi. Mais je me réjouis de voir qui seront les sélectionnés officiels chez les garçons, parce que là, c'est bien serré.
Mais pour vous, vous n'avez vraiment aucune idée ?
Non, pas trop.
Ces Jeux Olympiques, ça fait quand même un peu rêver. Ça reste quand même le mastodonte. Vous, c'est quand même dans un coin de la tête.
Bah oui, ça fait bien 2 années qu'on parle vraiment des Jeux. On a aussi vu le focus des athlètes cette année, la saison dernière, a vraiment favorisé ces disciplines olympiques. Il y a de plus en plus de médias qui parlent aussi des Jeux, des campagnes de communication. Et puis, le fait pour tout athlète d'aller au jeu, au final, dans l'esprit des gens, c'est si tu vas au jeu, t'es un vrai athlète, quoi.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet, Thibe de Seine se rendra le week-end prochain sur la 2e étape du Coupe du Monde à Courchevel. Sur la première début décembre aux États-Unis, elle avait pris le 3e rang du relais mixte, signant son premier podium dans l'élite. Et enfin, dernier mot de football, Berkan Kutlu rejoint la formation de Konya Spor. Le milieu de terrain montaisan a signé pour 6 mois chez l'actuel 13e de Super League turque. Il évoluait jusqu'ici à Galatasaray, le club le plus titré du pays que le joueur de 27 ans avait rejoint en 2021. Formé à Monté, Berkan Kutlu connaîtra ainsi son 5e club professionnel après Sion, Alanya Sport, le Genoa et donc Galatasaray.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.